de la semaine sainte par le Père Philippe, le 4 avril 85 à Saint-Joseph.
Pour nous, la fête du Jeudi Saint doit être une fête de très grande intimité avec Jésus, avec Marie, avec Saint Jean. C'est donné à toute l'Église, c'est bien évident. Il ne s'agit pas d'accaparer. Mais il s'agit de reconnaître les grâces de Dieu pour davantage le remercier, pour davantage être dans cette attitude d'action de grâce que je vous rappelais au début de cette semaine sainte. Je crois qu'aujourd'hui, on doit demander à l'Esprit Saint de comprendre ce qui dans cette fête nous est comme particulièrement réservé. Comment cette fête doit être vécue comme au cœur de notre vocation de la communauté Saint-Jean. C'est en vivant de ce mystère du Jeudi Saint, que nous sommes sûrs d'être fidèles. C'est la source de notre fidélité. Et c'est en y revenant tout le temps, et en essayant de s'harmoniser à ce mystère, que nous sommes vrais. Toujours avoir ce souci de vérité en découvrant justement ce qu'il y a de particulier à l'appel de Dieu. Nous sommes obligés cette année-ci d'être particulièrement attentifs aux constitutions. Priez bien, puisque ça doit se terminer lundi, puisqu'on doit tout remettre à Monseigneur le Bourgeois lundi. Il faut que ce soit terminé. Il faut prier pour que ce soit conforme à ce que veut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut aider même aux constitutions. C'est la limite, n'est-ce pas? Il peut aider jusque-là. Il peut permettre que les constitutions soient selon l'Esprit et selon les exigences de son amour. Oui, parce que les constitutions, c'est l'aspect du fort externe. C'est les parvis extérieurs sur lesquels les gentils passent. Il ne faut pas l'oublier. C'est donc quelque chose qui est donné, est livré, est officiel. On donne les constitutions pour qu'on voit bien ce qu'on représente, les déterminations et les limites. Pour nous, il y a un secret qui reste un secret de famille. Pour tous les amis, pour toute la grande famille de Saint-Jean, c'est le Jeudi Saint. Et il faut le saisir comme cela, le Jeudi Saint. Le Jeudi Saint doit être pour nous. Il faut progressivement que nous comprenions qu'il y a là un appel particulier. Parce que c'est le mystère de la croix. Alors là, on entre dans le Saint des Saints. C'est le mystère de la croix anticipé. Sous une forme qui n'est pas sanglante, sous une forme sacramentelle. Et c'est le mystère de la croix qui est anticipé. C'est la hâte du cœur de Jésus qui nous est donnée dans le Jeudi Saint. Alors on aime beaucoup la hâte du cœur de Marie. Et la hâte du cœur de Marie nous fait découvrir la hâte du cœur de Jésus. La hâte du cœur de Jésus, c'est l'intensité profonde de son cœur. Quand on est pressé, quand on est poussé à prendre vite l'habit. Hein? C'est une hâte, c'est très beau. Il faut le garder, ça, il faut le garder. Même si on dit attendez un tout petit peu, ça n'a pas d'importance. Cette hâte est... Dieu l'écoute, hein? Dieu regarde plus ça que la réalisation. C'est merveilleux. Et donc si nous voulons, nous, avoir cette hâte de la profession, du don de nous-mêmes, il ne faut pas lambiner, hein? Ça ne va pas du tout avec la spiritualité de Saint Jean. Saint Jean, il court au sépulcre avant Pierre. Hein? Il va plus vite que lui. C'est quand même très beau, ça. C'est merveilleux. On verra ça le jour de Pâques. Parce qu'il faut essayer de vivre ces jours d'une façon joannique, avec le caractère propre de, que Dieu nous demande de vivre cela. Et c'est important, la marque du Saint-Esprit pour nous. Encore une fois, pas du tout sans un esprit d'appropriation en disant les autres ne peuvent pas le vivre, non, et c'est pour ça qu'on aime bien qu'il y en ait d'autres qui ne sont pas directement dans la communauté, mais qui font partie de l'esprit. Quand il s'agit de l'esprit, c'est ouvert à tous, puisque c'est dans un esprit de pauvreté qu'on doit le vivre. Mais il est bon de sentir cette marque johannique, cette marque de Saint Jean aujourd'hui. Demain à la croix, au sépulcre, le mystère de la résurrection. Vous voyez, c'est vivre les crêtes de ces mystères. Parce que je crois que Jean vit les crêtes de ces mystères, il vit les sommets de ces mystères. Il nous demande de vivre ce sommet. Et ça, c'est ce que l'Esprit Saint nous demande. C'est le nid d'aigle, hein? Toujours, toujours, Saint Jean, c'est toujours ça. Et si on ne voit pas ça, on est à côté. Encore une fois, le faire avec une extrême pauvreté, plus l'Esprit Saint nous demande d'avoir ce regard contemplatif, plus il nous demande, hein, la pauvreté, l'humilité, il nous demande de vivre ça dans un détachement complet. Mais il faut être magnanime, hein, vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu est grand, il faut que nous soyons grands. Il ne faut pas être chiche vis-à-vis de Dieu, petit. Parce que ça maintient en nous une espèce d'amertume, tu vois. Et c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut avoir au contraire cette grandeur d'âme sous le souffle de l'esprit. Ouvrir tout grand les ailes de l'aigle. Hein? Tout grand. Aujourd'hui, demain et après-demain, avec une très grande joie dans le cœur. Et être capable par le fait même de recevoir le coup de lance. Être par le fait même capable d'accepter d'être dans le sépulcre. Mais il faut avoir cette joie très profonde. Alors je crois qu'il faut aujourd'hui, voyez, essayer d'entrer pleinement dans ce mystère. Parce que c'est le mystère du sacerdoce de Jésus. C'est le mystère du sacerdoce de Jésus. Voir ce passage que Saint Jean nous montre d'une manière si forte. Et c'est en ce sens-là que c'est vraiment le mystère qui nous est confié. Si Saint Jean a existé, c'est à cause de ça. C'est pour vivre la grandeur du sacerdoce du Fils bien-aimé, en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Et il a mis tellement ses complaisances qu'il veut que quand Jésus réalise son mystère de grand prêtre, il ait toute l'autorité du Père. Et c'est vrai, c'est toute l'autorité du Père qui enveloppe Jésus dans son sacerdoce de fils bien-aimé et qui est un sacerdoce de Père. Et c'est vrai, c'est un sacerdoce de Père. par notre vie religieuse, nous sommes tous frères. Et nous devons l'être, et frères de tous nos frères dans l'humanité. Parce que par la pauvreté, on est tous frères. Et si Jésus nous donne le sacerdoce ministériel comme un don d'amour gratuit, il veut que nous ayons des entrailles de père. Il veut que nous ayons un cœur de père. Il veut que nous entrions dans le mystère de Jésus, grand prêtre, revêtu de l'autorité du Père. Une autorité royale de Père, une autorité prophétique de Père, une autorité s'exerçant dans la totale pauvreté. Et c'est pour ça que tout s'ouvre par le lavement des pieds. C'est quand même tellement impressionnant. Regardez le début du sacerdoce lévitique, c'est pas le lavement des pieds. Et c'est pour ça que pour nous, le lavement des pieds prend une telle importance. Aujourd'hui, nous le vivrons au chapitre. Et si on le vit au chapitre, c'est pas du tout parce qu'on met une clôture et les autres n'ont pas le droit de le faire. C'est parce que, oui, c'est vrai, en vivant le lavement des pieds au chapitre, nous le vivons pour tous. C'est simplement pour faire comprendre que Jésus a pris les 12. Il les a séparés des autres pour qu'ils soient source, pour qu'ils soient père, pour qu'ils exercent l'autorité dans la plus grande des pauvretés. Et c'est ça que nous devons saisir aujourd'hui, contempler aujourd'hui sous le souffle de l'Esprit Saint. Contempler la grandeur du sacerdoce de Jésus, ce sacerdoce donné à tous. Puisque notre grâce chrétienne est une grâce sacerdotale. Donc donnée à tous. Autrement, on exciterait la jalousie des femmes qui ne peuvent pas avoir le sacerdoce, des gens mariés qui ne peuvent pas avoir le sacerdoce, alors on exciterait la jalousie, ce serait très très mauvais, ce serait juste l'inverse du mystère du Jeudi Saint. Le Jeudi Saint, c'est un mystère de magnanimité divine. C'est la grandeur de Dieu et la grandeur du cœur de Jésus et du cœur du Père qui nous est manifesté. Parce que c'est ça que Jésus fait quand il institue le sacerdoce. C'est magnanime, au sens le plus fort. Il faut toujours se rappeler la parole de saint Augustin. Saint Augustin a des petites considérations très très humaines, selon le conditionnement humain, parce que ça, saint Augustin, il a vécu le conditionnement humain. Saint Thomas, c'est un peu plus aérien. Mais saint Augustin, c'est très bien ce que c'est. Dieu lui a permis ça. Permis que ce soit quelqu'un qui soit en dehors de l'Église. Il a fait souffrir Monique terriblement. Il a fait souffrir terriblement. Il ne faut pas que les frères fassent trop souffrir leur petite sœur contemplative. Mais quand même, il a fait souffrir sa mère. Puis il était avocat. Ça en dit long. Donc il aimait de claironner les choses. C'est sûr, saint Augustin, c'est ça. C'est quelqu'un qui aime de dire. Il suffit d'écouter saint Augustin dans ses sermons, On va voir toute la journée. Voilà. Être bien assis et avoir toute la journée. Alors ça va très très bien. C'est merveilleux, saint Augustin. Ça demanderait d'être lu d'une manière augustinienne. Alors, c'est quelque chose qui a une espèce d'ampleur grande. Il faut être sensible à ça parce que c'est beau, c'est grand. Alors, saint Augustin dit, C'est la chose la plus inouïe que Dieu ait voulu qu'il y ait des hommes en qui il met toute sa confiance. Des prêtres, selon le sacerdoce ministériel. En faisant ça, Jésus montrait toute sa confiance dans les hommes et montrait que l'Église était conduite par le Saint-Esprit. Parce que saint Augustin ajoute, avoir une telle confiance dans les hommes, c'est sûr que ça rate. Il dit ça à peu près, hein, je ne le dis pas de la manière de saint Augustin, mais c'est ça que ça veut dire. Avoir une telle confiance dans les hommes, c'est sûr que ça rate. Et c'est pour ça que dans l'esprit de la communauté Saint-Jean, on veut avoir cette confiance totale dans l'homme, dans chaque novice, dans chaque frère. Juste l'inverse de cette méthode de suspicion d'aujourd'hui. Oh, attention, faites attention. Il faut être magnanime de cette grandeur d'âme de Jésus. C'est la grandeur d'âme du Père, mais dans un cœur d'homme. C'est extraordinaire, ça éclate alors. Faire une telle confiance dans les hommes, eh bien, au point de vue humain, c'est sûr que ça rate. Ça montre que c'est conduit par l'Esprit Saint. C'est très curieux que l'Esprit Saint aime la magnanimité du Père. Il aime ça, et il aime de retrouver en nous quelque chose de magnanime. Il aime pas ce qui est petit. Petit, pas de la petitesse évangélique, hein, vous comprenez bien, petit psychologiquement parlant. Il n'aime pas ça. Ce qui est mesquin. C'est pour ça que plus on entre dans ce mystère du sacerdoce royal et du sacerdoce ministériel, sacerdoce royal dans le cœur de Marie, le sacerdoce royal dans nos sœurs contemplatives, il faut qu'elles soient fameusement magnanimes, hein, dans nos sœurs contemplatives, il faut qu'elles entrent à fond dans cette exigence-là. Dans le cœur de tous les amis de Saint-Jean et de toutes les familles qui sont reliées, les familles de la terre, qui sont reliées à Saint-Jean, comme blanc. Il faut qu'ils aient ce caractère-là. Que tous nos Saint-Joseph soient magnanimes. Ça doit être la marque. Et c'est aujourd'hui que nous comprenons ça. C'est dans la lumière du Jeudi Saint. Et puis il faut que tous les frères de Saint Jean qui recevront le sacerdoce. Pour l'Église, on est un institut sacerdotal, il ne faut pas l'oublier. Pour l'Église, on est une communauté capable de préparer à ce don que Jésus nous fait de son sacerdoce, de ce sacerdoce ministériel, de ce sacerdoce sacramentel, de ce sacerdoce qui permet à des pauvres hommes d'agir in persona Christi, d'une manière sacramentelle. Alors c'est cela, je crois, qu'on doit essayer de comprendre à travers le lavement des pieds. Mais c'est peut-être le lavement des pieds qui est justement cette entrée triomphale dans le mystère du sacerdoce de Jésus. C'est le lavement des pieds qui nous aide à entrer dans ce caractère propre. Vous voyez, Jean le souligne très nettement. Avant la fête de la Pâque, sachant qu'était venue son heure de passer de ce monde vers le Père. C'est dans la grande montée. La magnanimité s'appuie sur l'espérance. C'est la grande vertu d'espérance. On ne peut être magnanime que si la vertu d'espérance en nous est pleinement vécue, est divinement vécue. Que si la vertu d'espérance s'exerce sous le souffle de l'Esprit Saint, et voyez tout de suite, par le don de crainte, et donc dans une extrême pauvreté, ne sont magnanimes que les pauvres, et ça c'est vrai, ne sont magnanimes que les pauvres, et plus on est pauvre, plus on est capable d'être magnanime, parce qu'on n'a plus rien à soi, tant qu'on garde encore quelque chose, on n'est pas magnanime. On donne en comptant. Je peux aller jusque-là. J'arriverai à terminer le mois. Tandis que quand on est pauvre, on donne tout. On n'arrive jamais à terminer le mois. Donc c'est simple. On en a fait le sacrifice dès le début. On sait qu'on ne peut pas y arriver. Mais on a un cœur entièrement donné sous le souffle de l'Esprit Saint. Alors, l'espérance divine peut s'emparer complètement de notre cœur. Avant la fête de la Pâque, sachant qu'était venue son heure de passer de ce monde vers le Père. Vous voyez, la grande montée, c'est dans cette manière-là, c'est dans cette espérance eschatologique, hein. Passer de ce monde vers le Père. C'est pour ça qu'on existe, hein? Pour montrer qu'on doit passer de ce monde vers le Père. Et que nous sommes dans cette grande montée d'espérance eschatologique. Et que nous devons toujours nous rappeler ça. Un témoignage de cette espérance des pauvres. Jésus ayant aimé les siens dans cette espérance eschatologique, cette charité fraternelle. Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Cette charité fraternelle qui doit aller jusqu'au bout. Eistotelos, hein, le terme grec est si fort, jusque vers la fin. Vous voyez bien, toujours cette grande... Cet aspect très particulier de la charité fraternelle qui ne peut être vécu pleinement qu'à travers une espérance eschatologique. Si on ne vit pas de cette espérance eschatologique, de cette espérance du retour du Christ, de cette espérance, de cette grande montée de la terre vers le ciel, notre charité fraternelle restera toujours un peu courte dans son exercice. Tandis que si au contraire vous êtes sûr, hein, et vous vivez dans cette certitude que nous attendons le retour du Christ. Je ne dis pas qu'on attend les grands événements. Non, non, on attend le retour du Christ. Les grands événements, mettez l'entre parenthèses. N'est-ce pas ? Mais on ne vit pas de ça. Ça, c'est la sainte dévotion des grands événements. Mais on attend le retour du Christ. C'est très, très différent. Parce que ça, c'est la révélation. C'est Jésus revient. Alors, quand vous attendez le retour du Christ, vous êtes magnanime dans la charité fraternelle. C'est extraordinaire. Vous pouvez regarder vos frères en disant « Oui, on vivra éternellement ensemble. » Et alors, la petite compote de la terre, ça se disparaîtra. Et on vivra pleinement dans le ciel. Et dans le ciel, on sera à s'aimer merveilleusement. Plus de chapitres dans le ciel, vous voyez. Plus de proclamations dans le ciel. Extraordinaire. Mais c'est justement que sur la terre, il faut en faire pour plus en avoir dans le ciel. N'est-ce pas ? Donc, plus de proclamations. Alors, à ce moment-là, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Dites-vous ça, chaque fois que vous en faites une, ça te gagne pour le ciel. Parce que c'est comme ça, c'est le concours de la charité fraternelle qui monte. C'est une charité fraternelle qui monte, les proclamations. Ça ne peut pas se comprendre autrement. Autrement, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, parce qu'on regarde les éclaboussures. Tandis que si ça monte, on ne regarde pas les éclaboussures. Ça monte, on est dans une charité fraternelle prise dans le grand élan de l'espérance eschatologique. Faudrait comprendre ça. Dans cette grande montée de ce monde vers le Père. C'est dit admirablement. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et nous sommes nés dans cet élan-là. C'est pour ça qu'on est nés tout près du cœur de Marthe. Parce que Marthe, c'était ça. Elle était suspendue au ciel. Ça pouvait s'arrêter chaque jour, à chaque instant. Et c'est pour ça qu'elle était si magnanime, qu'il y avait en elle cette espérance si étonnante. Quand viendra-t-il ? Vous savez bien, je vous ai dû raconter ce petit épisode qui m'avait tellement frappé. Et je l'entends encore, arrivant chez elle, un soir du jeudi, après toute une journée où elle avait reçu tout le temps, et on m'avait mis en dernier lieu pour que j'aie tout le temps. C'était merveilleux, c'était d'une gentillesse extraordinaire. Il n'y avait pas quelqu'un qui venait frapper après. C'était le père Finet qui devait venir en dernier lieu. Alors Marthe me dit, « Mais père, quand va-t-il venir ?» C'était dit avec un tel accent que j'ai cru qu'elle demandait quand le père Finet viendrait. Et ce n'est pas ça du tout. C'était vraiment Jésus. Quand viendra-t-il ? Si nous pouvions dire ça en toute vérité, hein, pas en imitant Marthe, mais en toute vérité sous le souffle de l'Esprit Saint, alors on serait vrai dans notre espérance eschatologique. Et je crois qu'on serait vrai dans notre charité fraternelle. Parce que notre charité fraternelle serait vécue, voyez, dans la lumière de l'éternité. Et non pas dans le temps. Si c'est vécu dans le temps, ça ne va pas. Si c'est vécu dans la lumière de l'éternité, oh, ça prend une dimension extraordinaire. On sème de la part du Christ. Alors, tout prend sa signification ultime, dernière. C'est quelque chose qui a une dimension toute particulière. C'est comme cela, je crois, que doit être vécue notre charité fraternelle, telle que Jean nous montre ici, telle qu'elle est vécue dans le cœur de Jésus. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Pendant un dîner, voilà la manière dont les vertus théologales se réalisent. Le comment. Comment ça se réalise? Et pendant un dîner, une chose aussi sublime et quelque chose aussi simple. La spiritualité des repas dans Saint Jean. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'attabler longuement, c'est pas ça du tout. Et que ça, c'est la spiritualité de la communauté Saint-Jean, on s'attable. Non, on est assez rapide, hein. C'est assez bien. Il ne faut pas être trop, parce qu'alors les mères s'inquiètent, ils vont attraper des ulcères d'estomac, ces pauvres petits, ils vont manger trop vite. C'est vrai, c'est très vrai, il faut faire attention, il faut manger lentement, les médecins sont là pour nous rappeler, il faut manger lentement pour pouvoir digérer. Ils sont toujours là pendant la... Et il faut le faire. Mais on le fait alertement, on ne s'installe pas. Non. Je crois que le repas s'est fait dans cette lumière-là. C'est comme ça que se passait la Pâque. Hein? C'est assez alerte quand vous regardez dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose, on sent très bien, c'est pas du tout, on va s'installer dans le bon fauteuil, et puis on va pouvoir se retrouver ensemble, et puis on va, oh, c'est pas ça du tout, c'est pas s'installer du tout dans des bons fauteuils, c'est la ceinture qui est là, on a le bâton à la main, puis on est prêt de marcher, on est prêt de partir, et là, la différence pour nous, c'est que l'Eucharistie, c'est la montée de la terre vers le ciel. C'est ça l'Eucharistie. Et nos repas doivent être comme ça. La spiritualité de nos repas, c'est donné dans la dernière scène. Ça doit être quelque chose qui nous permet de ne pas nous installer. Les deux coudes sur la table en disant « Attendons le plat suivant, parce qu'il sera meilleur que le premier. » Alors à ce moment-là, on s'installe. tandis que si au contraire vous avez la spiritualité qui nous est montrée ici, vous voyez que c'est tout à fait différent. Parce que c'est dans cette lumière d'une charité fraternelle qui va jusqu'au bout. On est heureux de se retrouver à table. Pourquoi ? Parce qu'on aura à côté de soi un frère qu'on aime. Pas à cause du repas qu'on va manger, mais parce qu'on est heureux de retrouver un frère à côté de lui, et qu'on sera assis tout près de lui. On sera ensemble. C'est beau, ça. Et quand ça varie, c'est encore mieux, parce que c'est la Providence qui a mis à côté de nous un tel, un tel. Moi, ça varie pas beaucoup, mes voisins, mais je considère que c'est la charité fraternelle quand même, et que c'est la volonté de Dieu. Et ça ne me déplaît pas du tout, n'est-ce pas ? Parce que c'est le Seigneur qui met qu'on soit comme ça, mais on est dans la joie de se retrouver. On garde le silence, il y a des petits papiers qui passent de temps en temps, mais on garde le silence parce qu'on est dans la joie de se retrouver. C'est comme ça qu'on se retrouve le mieux dans la charité fraternelle, c'est quand on se tait et on se regarde, on est heureux. Et pendant un dîner, c'est quand même Dieu qui l'a voulu ça, pendant un dîner, alors que déjà le diable avait mis au... Déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Ah ! Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'installer. Comment voulez-vous vous installer avec Judas à côté de vous, hein ? On ne peut pas s'installer, ça commence à sentir le soufre. On est obligé de faire ça assez rapidement et on voit bien l'impossibilité de s'installer. Déjà le diable. Et c'est à ce moment-là où la charité fraternelle est la plus profonde, voyez, parce que c'est la lutte. C'est un repas dans la lutte. C'est ça les repas des guerriers et des athlètes de Dieu. C'est pas du tout le banquet de Platon, où on voit Agathon assis avec des coussins moelleux. Ça, c'est pas ça du tout, de temps en temps. Hein. On se dit bigre, de temps en temps, des petits Agathons dans la communauté. Alors, c'est pas ça du tout, non, non. Il faut qu'ils deviennent des soldats vraiment qui peuvent lutter, qui peuvent aller jusqu'au bout de la lutte. Les soldats de Gédéon, on l'appelait. En passant, ça ne veut pas dire qu'on ne se nourrit pas et qu'on doit, on doit le prendre, au point de vue de la prudence, mais on a cette spiritualité de ceux qui savent, qui sont en pleine lutte. On ne désarme pas, vous voyez. Désarmer pour prendre son repas, c'est pas évangélique. On ne désarme pas, on sait qu'on est dans la lutte. Et on est dans la lutte jusque dans le dîner, jusque dans le repas. C'est très étonnant ça. On est dans la lutte jusque là. Alors que normalement le repas, c'est la détente. Et à ce moment-là, oui, vous voyez, on déposera toutes les armes possibles hein, pour être un peu détendu. Non, c'est une détente sans se désarmer. C'est une détente fraternelle, aimante. Mais on sait que la lutte est là. Et pendant un dîner, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui a tout remis dans les mains, Les mains, c'est l'autorité. La position des mains. C'est l'autorité. Jésus, sachant que le Père lui a tout remis dans les mains et qu'il est venu de Dieu, qu'il s'en va vers Dieu. Mais toujours ce grand mouvement. C'est très beau, ça. C'est ce souffle merveilleux. Et Jésus, sachant que le Père lui a tout remis, toute son autorité, toute l'autorité du Père est donnée à Jésus, se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il le noue à sa ceinture. C'est Jésus qui fait le geste de l'esclave. C'est Jésus qui prend la tenue de l'esclave. voyez bien, on est en pleine lutte. Et comment Jésus nous montre la manière d'être fidèle dans la lutte. C'est d'accepter d'être le serviteur des serviteurs. C'est d'accepter de faire le geste de l'esclave. C'est d'accepter d'être le plus petit. Au moment même où il est revêtu de toute l'autorité du Père, il fait le geste de l'esclave. Il se lève de table, dépose ses vêtements et prenant linge, il le noue à sa ceinture. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Et à les essuyer avec le linge noué à sa ceinture. Ce repas est un repas religieux. Mais c'est un repas religieux qui est le grand repas religieux de la Pâque. Avant de passer de la Pâque ancienne à la Pâque nouvelle, il y a ce geste de Jésus qui permet d'entrer au cœur de la nouvelle alliance qui va se réaliser au cours de ce repas religieux. Mais Jean ne dit rien du caractère religieux de ce repas. Et il insiste sur le caractère de la charité fraternelle. Et je crois ça très important pour nous. Le mystère de l'Eucharistie se réalise à l'intérieur de ce climat de la charité fraternelle. Et pour la charité fraternelle, plus qu'une attitude purement liturgique religieuse. Il y a une liturgie religieuse, c'est sûr, mais elle est assumée par la charité fraternelle. Elle est assumée dans la charité fraternelle. Ce sont des agapes divines. Mais l'autorité du Père est présente. C'est ça qu'on oublie aujourd'hui. On croit qu'on peut faire des agapes fraternelles sans l'autorité du Père. L'autorité du Père est présente. On n'a pas le droit de séparer ce que Dieu a uni. Et je crois que c'est important. Vous voyez, on retourne vers des agapes religieuses. Ce qui est très très curieux. Et ça, il faut lire, hein, il faut le comprendre. Et c'est notre devoir, nous, de comprendre cela. Et de le saisir, et de le saisir pleinement, et de voir la volonté expresse de l'Esprit-Saint. Toujours évidemment dans l'obéissance quand il s'agit de le réaliser, mais il faut le comprendre, c'est surtout ça, le comprendre divinement. Jean insistant sur la note de charité fraternelle fait que nécessairement la note religieuse est appauvri, simplifié, purifié. Et que la charité fraternelle est là pour recevoir l'exercice de l'autorité du Père que Jésus va réaliser. Sacerdoce royal. Il est royal parce qu'il se fait dans cet exercice de l'autorité du Père. Et ça, je ne peux plus le séparer du sacerdoce de Jésus. Et je ne peux pas revenir uniquement à un repas religieux. Alors c'est là où, vous voyez, il y a des quantités de problèmes qui se posent, et on sent très bien que ce sont les problèmes les plus délicats d'aujourd'hui. Alors, je ne résous pas, je ne dis pas oui ou non, j'essaie de comprendre. Et puis, il faudra ensuite conclure. Mais ça me frappe beaucoup. Nous sommes plus naturellement religieux que contemplatifs et que vivants de la charité fraternelle. Nous sommes plus naturellement religieux. C'est pour ça que quand on est fatigué, l'attitude religieuse l'emporte sur l'attitude de la charité fraternelle. C'est curieux. Pour notre liturgie, c'est très significatif. L'attitude religieuse l'emporte quand on est fatigué, quand il n'y a plus le souffle de l'Esprit-Saint suffisamment fort. C'est la charité fraternelle qui doit dominer. Et l'autorité du Père. Puisque toute notre liturgie est eucharistique. Et elle demande de l'être. Elle est centrée sur l'Eucharistie. Et donc elle a cette note particulière, spéciale. Notre liturgie doit être une liturgie dans la lumière de la scène et dans la lumière de ce qui est montré ici. C'est dans cette lumière-là qu'il faut comprendre le renouveau liturgique tel que l'Esprit-Saint nous le demande. C'est le comment de la charité fraternelle assumant la vertu de religion. Et permettant à la vertu de religion de nous unir dans une même prière d'église. Là, vous voyez tous ces éléments qui sont précisés, et tout ça est précisé, donc ce n'est pas laissé au hasard. Hein. C'est un repas. Donc nous savons que c'est le repas pascal. Mais Jean ne le dit pas. On comprend très bien, avant la fête de la Pâque, c'est dit. Mais c'est dit, vous voyez, pour nous faire comprendre que c'est quelque chose de fondamental, mais qui va être repris, le renouveau de toute la liturgie chrétienne. Il est à la scène. C'est à la scène où on assiste à ce renouveau de la liturgie chrétienne. Le passage de l'ancienne liturgie que Jésus vit et à ce renouveau. Et le passage se fait par le lavement des pieds. Le geste de l'esclave. C'est Jésus qui veut non pas abdiquer son autorité, mais exercer son autorité en pauvre, à la manière d'un esclave. Pas seulement assis sur le petit d'une ânesse, c'est déjà très pauvre, mais faisant le geste de l'esclave. Se mettant sociologiquement dans la position de l'esclave. Des gestes qui étaient réservés aux esclaves. Et il le fait. Et en le faisant, il donne à ce geste une nouvelle signification. Exactement comme portant la croix, il donne à la croix une nouvelle signification. Vous voyez, les deux extrêmes se trouvent unis. Et c'est peut-être ce qu'il y a de si étonnant dans ce mystère de l'Eucharistie. C'est l'autorité du Père et l'exercice de l'esclave. C'est les deux extrêmes, on ne peut pas aller plus loin. L'autorité du Père, c'est l'autorité royale du Père, c'est l'autorité la plus forte qui soit, c'est l'autorité du Créateur. Et cette autorité du Créateur est là pour nous faire comprendre que tout est repris. Et tout est repris radicalement, et que la scène ne peut pas se réaliser sans que la toute-puissance du Père soit engagée. C'est la toute-puissance du Père qui est engagée. Donc l'autorité du Père qui est engagée, l'autorité royale du Père qui est immédiatement engagée. La consécration ne peut pas se faire sans la toute-puissance royale du Père. Et c'est ça qui est important à saisir. Et cette toute-puissance du Père se réalise à travers des liens de charité fraternelle. Dans une communauté intimement liée dans la charité fraternelle. Et la présence de Judas montre que, au sein de cette charité fraternelle, le démon est là. Il aurait dû y avoir une clôture papale par rapport à Judas. Non, non, il n'y en a pas. C'est la charité fraternelle, sans clôture, et le démon pénètre, et le démon est là. Ce qui donne une tonalité particulière à cette charité fraternelle qui ne peut pas se reposer et qui est obligée d'aller de l'avant. Il vint donc vers Simon Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ». Jean souligne tout de suite ce premier contact de Jésus avec Pierre. Jean ne nous dit pas le contact de Jésus avec chacun. Ça, c'est nous qui devons le faire. Le contact de Jésus avec Jean. Jean l'a gardé comme un secret. C'est beau. Il y a eu sûrement, à ce moment-là, entre Jésus et Jean, quelque chose d'unique. C'est pour ça que Jean nous rapporte ce geste de Jésus. Il a compris toute son importance. La pauvreté, c'est pour permettre une communication plus grande d'amour. Et Jean a compris que si Jésus faisait ce geste de l'esclave, c'était pour que il puisse communiquer plus pleinement son amour, pour qu'il puisse aller plus loin dans la communication de son amour, pour que la communication de son amour puisse être extrême, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Fallait cette pauvreté, la pauvreté de l'instrument. Et la pauvreté de l'instrument, vous le savez bien, c'est la pauvreté de celui qui est plus attentif au contact qu'il a avec la cause principale dont il est l'instrument, que le résultat de ce qu'il fait. Dès que vous êtes attentif au résultat de ce que vous faites, vous n'êtes plus instrument. Et vous gâchez tout. Et l'Esprit Saint ne peut plus agir. Il faut être attentif uniquement à l'accomplissement plénier de la volonté du Père. Il faut être uniquement attentif à ce contact contemplatif, puisqu'on ne peut pas être en contact avec le Père en dehors de la contemplation et de l'adoration. Il faut être attentif en premier lieu à ce contact avec le Père. Et laisser l'Esprit Saint agir. Je crois que Jean a compris ça. Il faut lui demander. On a le droit de demander à Saint Jean de nous donner ses secrets. Les grands silences de l'évangile de Saint Jean. Les grands silences de l'évangile de Saint Jean. Alors il est bien évident que quand Jésus s'est trouvé face à Jean, il a dû être quelque chose de très, très émouvant. Et quelque chose de si grand. Et Jean a dû demander à Jésus une telle purification de son cœur que Jésus seul pouvait réaliser. Il note la réaction de Pierre. Et la réaction de Pierre est très significative. Elle nous aide à comprendre. Toi, Seigneur, me laver les pieds. Pierre est scandalisé. Ça peut arriver d'être scandalisé. Pierre est scandalisé devant le geste de Jésus. Selon Pierre, Jésus n'aurait pas dû faire cela. Pourquoi ? Parce que Jésus, ayant l'autorité, doit sauvegarder le pouvoir lié à l'autorité. Il doit sauvegarder la dignité de l'autorité et la grandeur de l'autorité, telle que Pierre l'a concevée selon l'ancienne alliance. Je vois pas très bien un grand prêtre, Caïphe, faisant le geste de Jésus au milieu du Sanhédrin. Très difficile, je crois. Et Pierre comprend cette autorité-là, liée à un certain pouvoir, à un certain décorum. Vous voyez, toutes les réformes qui se sont faites par rapport au Saint-Père, la tiare, on peut pleurer sur la tiare, évidemment, je comprends très bien, on peut la pleurer sur la tiare, mais on comprend le geste du pape. Lavement des pieds, comme un esclave, et donc acceptant d'être comme un agneau immolé, sans défense. Ça a une signification, le meurtre du pape. C'est quelque chose de très significatif. Je crois que c'est ça. Accepter d'être le plus petit. Et le plus petit, c'est celui qui reçoit la balle. Et c'est celui qui accepte de la recevoir. Dans notre monde d'aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves. C'est d'être celui qui est livré. Et pleinement livré. Pierre a de la peine à comprendre. Pierre n'accepte pas. Toi, Seigneur, me laver les pieds. Non. C'est impossible. Jésus répondit et lui dit, ce que moi je fais, toi tu ne le sais pas à présent. Mais tu comprendras dans la suite. Ça, il ne faut jamais oublier. Quand on est scandalisé devant certaines choses, Jésus nous dit, tu ne le sais pas à présent, et tu comprendras dans la suite. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est dans la vie commune, ça, n'oubliez pas. C'est le mystère de la vie commune qui nous est montré là. Et dans la vie commune, il y a certaines choses que nous ne comprenons pas, qui peuvent même nous scandaliser. Ça arrive, si on a un certain sens de l'autorité. Alors ça peut nous scandaliser. On peut dire non, vraiment, ça, là on exagère. Oui. C'est très vrai, humainement parlant, au niveau d'une prudence humaine, c'est très vrai. Il y a un dépassement du don de conseil que Jésus réalise. Ce que moi je fais, tu ne le sais pas à présent. Jésus fait un geste prophétique. Il le dit, hein. Il montre que c'est un geste prophétique. Tu ne le sais pas. Tu ne comprends pas la signification. Parce que tu regardes les choses de l'extérieur. Et une fois de plus, tu juges selon les apparences. Parce que chaque fois qu'on est scandalisé, c'est toujours, tu juges selon les apparences. Tu entends de l'extérieur et tu ne vois pas en profondeur. Mais tu comprendras dans la suite. Il lui maintient l'espérance. Hein. Un jour, tu entreras pleinement et tu comprendras pleinement. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Ça, c'est la colère de Pierre, hein, en face d'un geste de Jésus. Il y a un peu de colère. Il est colérique, du reste, Pierre. Souvent, ceux qui exercent l'autorité, hein. Je ne dis pas qu'ils ont toujours des saintes colères, mais ils ont le sens, hein, de l'autorité, de l'exercice de l'autorité. Alors, l'irascible est particulièrement développé. Parce que l'irascible se développe avec la force. Et c'est l'irascible qui maintient de la force. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas tuer l'irascible, hein, surtout pas. Il vaut mieux avoir de temps en temps des éclats que tuer l'irascible chez quelqu'un. C'est la dernière des choses à faire, de tuer l'irascible. D'abord, il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui se met jamais en colère. Mais vous savez bien, c'est vrai. Hein, c'est, on a envie de marcher sur les pieds, voir jusqu'où ça va aller. Il se met de temps en temps en colère, au moins pour nous montrer qu'il comprend. Ça n'a pas blessé le cœur de Jésus, la colère de Pierre. Pas du tout. Ça n'a pas blessé le cœur de Jésus. C'est une colère qui, elle n'est pas sainte, non, elle n'est pas sainte, c'est sûr. Mais elle est au nom de ceux qui défendent l'autorité. Pierre défend l'autorité. Non. Et Pierre dit, il y a des limites à l'autorité. On ne va pas jusque-là, quand même. Non, c'est impossible. Comment voulez-vous laver les pieds de ses frères avec la tiare? Impossible. Pas à se faire. J'aime beaucoup la tiare, hein, faut pas dire que je l'aime pas, j'aime beaucoup. Elle a existé pendant un certain temps et elle devait exister. L'Esprit Saint a voulu quelque chose d'autre. Non, pas du tout pour la démocratie chrétienne, oh, pas ça du tout. C'est tout à fait autre chose, c'est tout à fait d'un autre ordre, c'est tout à fait différent. C'est quelque chose de divin. Il faut que Pierre arrive à mourir dans le sens de l'autorité qu'il a. De cette autorité voulue par Dieu. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Il faut bien remarquer ce genre de raisonnement de Jésus. C'est toujours très impressionnant. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. C'est très impératif, ça. C'est très très fort. C'est pour exprimer la plus grande nécessité. Pour pouvoir avoir part avec Jésus, il faut accepter le lavement des pieds. Et accepter le lavement des pieds, c'est accepter que l'autorité divine s'exerce dans la plus grande pauvreté. Parce que c'est ça, le lavement des pieds. C'est que l'autorité divine puisse s'exercer en prenant les mœurs de l'esclave. Après tout, l'esclavage a permis à Jésus de laver les pieds de ses frères. C'est pour ça que Jésus a permis l'esclavage. C'est pour ça que Dieu a permis l'esclavage. Quelquefois, vous vous demandez, mais pourquoi Dieu a-t-il permis l'esclavage? Pour que Jésus puisse laver les pieds de ses frères. Et quand le pape dit, l'homme est la route de l'Église. Allez jusque-là. Ben, c'est extraordinaire. Ces mœurs de l'esclave, laver les pieds des convives, Dieu s'en sert pour aller jusque-là. Et Jésus montre, hein, qu'on ne peut pas avoir part avec lui. C'est la condition sine qua non. Je ne te lave pas les pieds, c'est impossible. Donc Jésus montre l'importance de cela. C'est pas un geste banal. C'est un geste qui est nécessaire pour passer d'une alliance à l'autre. Ce geste est nécessaire pour passer d'une alliance à l'autre, pour passer de l'alliance ancienne exprimée par la Pâque, puisque la Pâque était l'arme de toute alliance ancienne, et pour passer dans la nouvelle alliance dont l'âme et l'institution de l'Eucharistie, il faut le lavement des pieds. Ce que Moïse n'a jamais fait. Et Moïse ne devait pas le faire. Et Moïse devait exercer son autorité de législateur de façon très particulière. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore les mains et la tête. » Il est vaincu. Il a fallu aller jusque-là. Il ne faut jamais l'oublier, ceux qui exercent l'autorité et qui ont des pierres sur leur domination. Alors, il faut de temps en temps aller jusque-là et aller très profondément. Ça va très loin, c'est extrême. Et alors à ce moment-là, il est vaincu. Il est vaincu dans sa générosité, alors forcément, ça bouillonne, et il veut tout. Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore les mains et la tête. Il veut une plus grosse part que les autres, parce que c'est pas étonnant. Il exerce l'autorité, alors il veut être là encore, premier dans le lavement des pieds, et que ce soit pas seulement les pieds, mais les mains et la tête. Jésus n'a pas lavé les mains et la tête de Pierre. Non, il a lavé les pieds. Ça, j'en suis sûr. Parce que c'était simplement le geste symbolique. Oui, très curieux. La générosité ne comprend plus le symbole. Le symbole, c'est toujours quelque chose de très déterminé pour conduire à une autre réalité. Le symbole n'est jamais total. Il est expressif de quelque chose qui lui est total, le mystère. Et le mystère, c'est la réalisation d'avoir part au mystère de Jésus. D'avoir part au mystère de la passion. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, mais il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais non pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrerait. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. C'est très important ici, parce que ça nous fait comprendre pourquoi Jésus fait ce lavement des pieds. Il le fait pour Pierre, il le fait pour Judas. Il le fait pour Jean, et il le fait pour chacun en particulier.
De la semaine sainte 85, conférence du 3/85 par le Père Philippe à Saint-Joseph.
Nous devons demander à l'Esprit Saint de faire que cette grande semaine soit une semaine sainte. Et je vous rappelais hier la nécessité pour nous de la prière et de l'action de grâce. Purifier radicalement notre cœur et notre intelligence. Et plus notre cœur est capable d'aimer, plus notre intelligence a soif de vérité, plus il faut qu'il soit totalement offert à Jésus dans l'adoration. Il faut que l'acte d'adoration soit de plus en plus une attitude d'amour et de totale confiance à notre Père, adoré en esprit et en vérité.